Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Euros, je sais pas combien ça fait en francs, mais ça fait plaisir d'avoir des euros.
Voilà, c'était le 1er janvier 2002. Peut-être vous en souvenez-vous si vous nous écoutez depuis la zone euro. Quelques minutes à peine après minuit, les premiers billets de banque en euros sortaient des distributeurs. 15 ans après la mise en circulation de la monnaie unique européenne dans 12 pays, 5 ans après le déclenchement de la crise grecque, l'euro est toujours sur pied, c'est vrai, mais il vacille. Pour certains, il a bien permis à la zone euro de tenir le cap. Il est l'étendard d'une construction européenne qui est nécessaire, même si elle est fragile. Pour d'autres, eh bien, il n'a pas tenu ses promesses, a contribué à creuser des écarts et n'est plus viable à long terme. La formule ne vient pas du Front National, mais du très pro-européen Institut Jacques Delors et même de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, classé plutôt à gauche, qui a tiré il y a quelques semaines, c'était au mois de septembre, la sonnette d'alarme. Alors, après 15 ans d'euros, le bilan est-il plutôt positif ou plutôt négatif? Faut-il quitter l'euro pour sauver l'Europe? C'est notre thème du jour, bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Jacques Mazier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université Paris 13. Vous êtes co-auteur du livre « Quand les crises reviennent » paru aux éditions Economica, co-auteur avec Michael Clévenot et Vincent Duviquet. En face de vous pour débattre, Vincent Oussillou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département économie-finance de France Stratégie. Alors, j'aimerais, messieurs, qu'on commence un petit peu par le diagnostic, avant de vous demander si il faut quitter l'euro, si ça vous semble souhaitable, envisageable. Jacques Mazier, quel bilan vous voudrez de 15 ans de monnaie commune, est-ce que l'euro a tenu ses promesses?
D'une certaine manière, oui, mais les résultats sont globalement très négatifs pour l'Europe. Hein. La zone euro était au départ moins touchée par la crise financière que les États-Unis et le Royaume-Uni, et ses performances ont été de loin plus mauvaises depuis, principalement du fait du fonctionnement de la zone euro. Et en gros, quelle est l'erreur de départ dans la création de la zone euro? Eh bien, c'est qu'on a créé une monnaie unique avec des pays extrêmement hétérogènes. Hein. Maintenant, on a les pays baltes, l'Allemagne et le Portugal ou la Grèce, qui sont des pays extrêmement hétérogènes, sans aucun mécanisme d'ajustement face à des évolutions qui sont forcément divergentes entre des pays aussi différents.
Alors, on va venir à ces limites, mais je voudrais d'abord, sur le diagnostic, vous disiez que certaines promesses ont été tenues. Lesquelles, par exemple ?
Non, mais il y a quand même le fait, bon, l'euro comme symbole de l'Europe, la facilité que l'on a quand on fait du tourisme, la facilité que ça donne également pour les entreprises. Bon, il y a un certain nombre de points positifs de l'euro qui sont bien évidents. Cet euro ne pouvait fonctionner que si on avait mis en place, ou si on avait pu mettre en place un système comme un budget fédéral européen, des choses qui étaient proposé à l'époque, mais qui sont politiquement extrêmement difficiles. Ou bien mettre en place une meilleure coordination des politiques économiques, relancer davantage en Allemagne pour moins freiner Portugal ou en Espagne, ou bien coordonner les politiques salariales, hein, fait moins de pression sur les salaires au sud et plus d'augmentation des salaires en Allemagne. Bon, tout ça, c'est des idées qui permettraient de faire fonctionner la zone euro de manière plus équilibrée, mais qui sont extrêmement difficile
à mettre en place pour l'instant. Alors, sur le diagnostic, Vincent Siou, votre diagnostic, 15 ans sont passés. Alors, est-ce que vous diriez, comme Jacques Mazier, que le bilan est plutôt mauvais, plutôt mitigé, plutôt bon?
Non, moi je dirais effectivement que le bilan n'est pas bon. On peut pas le contester. Effectivement, la zone euro est encore en pleine crise, notamment du côté de la Grèce. Même si les autres pays de la zone euro se sont stabilisés, et ceux qui avaient connu des récessions profondes, pour un bon nombre d'entre eux, notamment l'Espagne, notamment l'Irlande, maintenant le Portugal, sont repartis. Mais le bilan n'est pas bon globalement. L'Italie est un des pays qui a le plus souffert effectivement de la période de la décennie passée, même avant la crise. Maintenant, c'est les défauts de la construction de l'euro qu'il faut corriger. Et je pense que ces défauts-là peuvent être corrigés. Je ne pense pas que ça soit hors de portée. Mais, en revanche, il faut choisir sur le modèle que nous voulons. Nous avions un modèle de Maastricht où les États étaient censés être responsables de leurs propres dettes. Et donc, ça s'accompagnait d'une discipline budgétaire relativement faible. Quand les problèmes sont arrivés, effectivement, la crise a provoqué des tensions très très fortes sur la dette de certains pays. Et nous sommes intervenus, la zone euro dans son ensemble, collectivement, pour épargner le défaut d'un des pays de la zone euro. Donc nous sommes sortis de l'architecture qui était celle qui était dessinée, et nous sommes au départ, et nous sommes maintenant dans un modèle qui est non soutenable, qu'il faut absolument rendre beaucoup plus cohérent. D'un côté, soit nous voulons de la solidarité entre pays européens en cas de crise financière de dette, mais dans ce cas, si un jour on peut appeler le contribuable français, le contribuable allemand à la rescousse de la dette italienne, bien entendu que le contribuable français ou le contribuable allemand va vouloir avoir un droit de regard sur la manière dont l'Italie dépense et construit son budget. Ça, on peut tous le comprendre.
Donc ça, c'est la première solution. Soit on choisit la solidarité, soit...
Soit on choisit que chaque pays est souverain sur son budget, décide indépendamment de son budget. Et dans ce cas-là, en cas de problème, bien entendu, on ne va pas faire appel à la solidarité européenne. Et dans ce cas, ça veut dire prévoir et anticiper la restructuration des dettes publiques, prévoir le défaut d'un pays, ce que nous n'avions pas fait avant la crise, et ce qu'il faut maintenant, si on s'oriente dans cette voie, anticiper.
Alors, Jacques Mazier, sur ces deux pistes, vous penchez plutôt pour laquelle ? La solidarité, chaque pays souverain, vous voyez une troisième voie ?
Oui, je pense que les deux voies sont difficilement praticables. C'est-à-dire que la solidarité, ça supposerait que, comme ça a été dit, qu'il y ait quand même un certain droit de contrôle, des contribuables allemands sur la politique italienne, par exemple, ou réciproquement. Et je pense que ça, dans la période actuelle, c'est difficilement envisageable. C'est-à-dire que politiquement, il n'y a pas de solidarité au niveau européen, il n'y a pas de peuple européen, quoi. Il y a un certain consensus européen, ce qui ne va pas jusqu'à un engagement politique qui permettrait finalement que une majorité de pays européens impose sa loi à d'autres jusqu'à
c'est pas l'idée politique qui domine en ce moment, c'est
jusqu'à jusqu'à ce que doit être par exemple la politique de santé ou les retraites, ça pourrait aller très loin. Donc cette idée là est difficile. L'autre, qui est un peu le modèle américain, on peut mettre en faillite un pays. Alors, je pense que ça peut être gérable pour des petits pays, hein. Par exemple, un pays comme la Grèce, on peut gérer son problème sans que ça crée un déséquilibre trop profond au sein de l'Europe. Par contre, si c'est un grand pays comme l'Italie ou l'Espagne ou la France, ça paraît quelque chose qui est hors de portée. Donc, la transposition du modèle, quand on dit modèle américain, c'est un modèle, un système fédéral avec des villes, par exemple, qui peuvent faire faillite. Dans le cas européen, paraît difficile. D'une part, on n'a pas du tout l'amorce d'un budget fédéral, et d'autre part, dire qu'il y aurait la sanction de la possibilité de faillite d'un grand pays paraît difficile.
Alors, donc, le budget fédéral, si je me trompe pas, ça fait partie par exemple des propositions de Vincent Peillon, qui est l'un des candidats à la primaire de la gauche. Qu'est-ce que vous répondez, Vincent Oussillou, à Jacques Mazier, qui dit finalement dans les deux scénarii, c'est pas très crédible, politiquement on n'a pas les moyens de le faire.
Non, je pense que c'est envisageable. D'un point de vue, en fait, quand on dit un droit de regard des autres États membres sur le budget national, ça ne veut pas dire que les autres États membres vont décider si tel argent va aller vers la santé ou vers d'autres dépenses, la défense ou autre. En revanche, ça peut vouloir dire un accord sur une enveloppe globale décidée par le Parlement national et avalisée par le Parlement européen, un droit de regard législatif. Ça ne veut pas dire une intrusion dans la politique budgétaire nationale. Ça veut dire juste une coordination et un droit de regard. Donc ça, c'est un premier point. C'est pas si inatteignable que ça, si impensable que ça, parce que dès à présent, nous avons des règles, les fameux 3%, et d'autres règles, le pacte de stabilité et de croissance a été extrêmement détaillé, donc nous avons accepté une certaine discipline.
Catastrophiques, les règles.
Les règles sont catastrophiques, mais
ce que vous dites, c'est qu'on peut en fixer qu'elles peuvent être à peu près respectées.
Et au lieu de passer à des règles, on passe à une gouvernance politique et démocratique, plutôt que des règles aveugles, et fixer une fois pour toutes, et donc une décision collective sur des enveloppes budgétaires globales de chacun des pays, dans des limites tout à fait acceptables démocratiquement, c'est-à-dire ce n'est pas un diktat, c'est simplement, compte tenu des éléments budgétaires du pays, quelles sont aujourd'hui les dépenses, l'enveloppe globale que la France, que l'Italie, etc., peut éventuellement dépenser.
Jacques Mazy, vous y croyez à ce scénario ? Un tout petit peu plus près du micro, s'il vous plaît.
Ça me semble peu praticable pour deux raisons. D'abord parce que ça supposerait qu'au niveau de la zone euro, on mette en place quelque chose qui serait un genre Parlement européen de la zone euro.
Ça, qui, c'est pas impensable.
Qui permettrait... Non, bah, c'est pas impensable. Ça supposerait quand même une réforme assez lourde. C'est-à-dire que c'est pas le Parlement européen, ça serait un nouveau Parlement européen qui aurait des pouvoirs...
Chambre. Une chambre zone euro.
Des voix extrêmement importants, puisqu'il aurait cette possibilité donc de donner des enveloppes budgétaires, d'imposer des enveloppes budgétaires à chacun des pays. Bon, donc c'est
pas d'imposer, mais
après, il y a quand même des élections dans plusieurs pays européens qui sont clés, et l'Europe fait partie des points
d'attente. Ça serait une étape, cette étape supranationale au niveau de la zone euro serait très, très importante. Deuxièmement, c'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire que la procédure budgétaire est déjà très lourde. Là, on rajoute une couche supplémentaire dans cette procédure qui la rend peu praticable. Enfin, je pense qu'il y a un problème de faisabilité qui est, disons, qui ne faut pas...
C'est pas incompatible avec une simplification. Ça, on peut se débarrasser de beaucoup des règles qui existent aujourd'hui si on rentre dans un tel système. Mais ça, c'est dans le système, si on accepte la solidarité, si on veut la solidarité, oui, il faut un droit de regard des autres pays. Si on n'accepte pas le droit de regard des autres pays, dans ce cas-là, on n'accepte pas la solidarité, parce que on ne peut pas, le jour où il y a un problème, dire ah mais venez à mon secours, alors même que j'ai géré comme je l'ai voulu pendant des années.
Mais alors Jacques Mazy, si je comprends bien, vous dites que ce que propose Vincent Ossiou, finalement pourquoi pas, mais de toute façon ça pourrait pas être réalisé. Donc du coup vous en tirez, oui, pour des raisons politiques que vous nous avez détaillées. Du coup, vous dites quoi ? Il faut quitter l'euro pour sauver l'Europe, comme dit le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. C'est ça, votre ligne ?
Je dis que dans la situation actuelle d'éclatement de l'Europe, d'absence de peuple européen, de décisions prises à ce niveau-là, eh bien, on peut réintroduire le taux de change comme une variable d'ajustement, parce que le taux de change est une variable macroéconomiquement extrêmement, extrêmement
alors,
puissante.
Attendez, concrètement, alors, ça veut dire quoi, réintroduire le taux de change ? On revient au franc, au Deutsche Mark ?
Il y a différentes solutions qui sont envisageables. La première, la plus simple peut-être, mais la plus radicale, serait que dans la zone euro, l'Allemagne sorte de la zone euro, parce que l'Allemagne est un facteur de déséquilibre extrêmement important du fait de ses...
Trop décalée.
Elle est, disons, trop forte par rapport au reste. Bon, donc...
ce serait la première option. Alors, juste sur cette première option, Vincent Oussiou, est-ce que ce serait une bonne idée, sortir l'Allemagne de la zone euro ?
La grande question, c'est la transition. Comment on revient à des monnaies nationales compte tenu des taux d'endettement d'endettement des pays, y compris de la France, hein, qui est proche de 100%, de l'Italie qui est à 130%.
Oui, mais là, finalement, si on sort l'Allemagne, on réintroduit pas, enfin, on réintroduit une monnaie nationale seulement, pas.
Oui, mais et du coup, nous devenons responsables de la dette italienne, espagnole, grecque, sans l'Allemagne pour nous soutenir. Je crois que là, on serait immédiatement attaqué par les marchés, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui prêtent aux États seraient en défiance vis-à-vis de la signature de cette nouvelle zone euro, au moins l'Allemagne, et pour le coup, nous serions dans une très grave crise financière.
Jacques Mazier.
Alors non, mais donc la dette, si l'Allemagne sortait à zone euro, la dette resterait en euros. Donc la plus grande partie de la dette est sous législation nationale dans les différents pays. Par conséquent, si on garde l'euro, on rembourse en euros.
Okay, alors,
mais ça, c'est une solution.
Deuxième solution.
Les deux autres solutions envisageables, c'est on garde l'euro tel qu'il est, mais on réintroduit des monnaies nationales qui ne seraient pas, donc un euro franc, un euro peseta, qui ne serait pas convertible au niveau international et qui serait par contre ajustable par rapport à l'euro global, ce qui permettrait de déprécier la monnaie
De jouer sur la dévaluation pour regagner en compétitivité.
Mais la contrepartie de ça, il faut être très clair, c'est que ces monnaies nationales n'étant pas convertibles au niveau international, il y aurait réintroduction donc de contrôle d'échange. Donc,
vous auriez une coordination, parce que sinon c'est la guerre monétaire qu'on aurait en Europe. C'est-à-dire la dévaluation
désorganisée. Bien sûr. Ça suppose qu'il y ait au niveau monétaire des accords sur les parités de change.
D'où un contrôle collectif.
Hein. Oui,
on y revient.
Mais bon, ça existait au moment du SME. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on peut revenir.
Et votre dernière option,
alors c'est on réintroduit des monnaies nationales qui, elles, sont des devises, c'est-à-dire qui flottent effectivement sur les marchés internationaux, et on constitue un euro qu'on appelle bancor, ou qui serait un peu une forme d'ancien écu, qui serait un panier de monnaie européenne. Et ces monnaies européennes seraient en change fixe, mais ajustables par rapport à cet euro bancor. C'est-à-dire qu'on réintroduit, par conséquent, la possibilité de change ajustable au sein de la zone euro à travers ce système-là. Donc l'intérêt de cette procédure, c'est qu'on pourrait garder le cadre de la Banque Centrale Européenne actuelle, avec des comptes des pays européens auprès de la Banque Centrale comme il en existe actuellement, qui seraient libérés en euro bancor.
Ça, Vincent Oussiou, le coût serait énorme selon vous ?
Non, sur cette dernière option, le coût théoriquement ne serait pas nécessairement énorme. La question, c'est comment on va accepter, qui va décider, selon quelle procédure, demain l'euro italien se dévalue de 20%, l'euro France dévalue de 20%. Bien entendu, l'acrimonie, la difficulté de trouver un accord là-dessus serait extrêmement difficile.
Mais on sent monter quand même ces voix en Europe, hein, de plus en plus, mouvements politiques le disent. Enfin voilà, je veux dire, il y a quand même un euroscepticisme très fort, donc questions vont peut-être se poser très concrètement.
Là, pour le coup, l'accord serait absolument impossible sur la parité, et pour le coup, on aurait ça serait la fin de la monnaie unique. Ça peut pas être cette option-là. Elle est théoriquement possible, mais pour le coup, elle est en pratique génératrice.
Ça, c'est sûr.
C'est clair.
Mais ce n'est pas la fin de l'Europe, ce n'est pas la fin d'une organisation monétaire européenne. C'est simplement une autre structure qui peut être proposée. Et en tout cas, moi, je crois qu'on a vu que c'est, en gros, extrêmement difficile de réformer la zone euro. Hein, pour tout ce qu'il y a dit sur
elle s'est réformée quand même avec l'union bancaire, on a adopté un traité.
L'union bancaire, on n'a pas réglé les problèmes fondamentaux de l'union bancaire. On a imposé un pacte de stabilité budgétaire qui est une aberration. Donc, ça a été très mal réformé de ce point de vue.
Il nous reste quelques secondes. Vous dites, il a été difficile de réformer la zone euro. Donc, pour vous,
Il faut la réformer. Hein. Et donc, il y a des propositions qui sont intéressantes et qui sont faites, mais elles sont politiquement extrêmement difficiles à faire passer. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut mettre sur la table les deux options. C'est-à-dire si vous ne voulez pas réformer la zone euro, à ce moment, on sort de l'euro tel qu'il est, parce que cet euro, il fait mourir à petit feu les pays Voilà. Donc, plutôt que de mourir à petit feu, eh bien, on rouvre le débat.
Ayons le courage de faire des réformes politiques qui sont difficiles. C'est ce que vous nous disiez. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de Jacques Mazier, professeur émérite d'économie à l'Université Paris 13, co-auteur du livre « Quand les crises reviennent » aux éditions Economica. Vincent Oussiou, directeur du département économie-finance de France Stratégie. Merci également Alexandre Serre, Florence Ponce et Valentin Vaner. On se retrouve demain pour un nouveau débat. On parlera archéologie. À demain.